Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Comment vous allez faire pour le montage? Parce que toi, tu montes vite, mais ZQSD, il y a toujours un petit truc de latence qu'ils assument. Est-ce qu'il y aura une semaine et demie, deux semaines entre les deux épisodes?
Non. Normalement, c'est mise en ligne concomitante.
D'accord.
Mais par contre, un montage avec 11 pistes, ça va être quelque chose. Hein. Ça va être vraiment trop, trop bien. Donc voilà. Et puis, il y aura aussi une bande-annonce pour cet épisode. Ça va être trop bien. Transition. Et la bande-annonce de cet épisode...
Au plus personne va vouloir se parler, ça va être une super bonne annonce.
Mais non, cette fois-ci, je l'enregistre avant. Tu vois, je prends mes précautions.
Il y a 2h30 du matin, si tu veux, le côté... j'ai ma bande-annonce aussi.
J'ai aussi la bande-annonce. Si vous... Ne partez pas. Réveillez-vous. Pour cette semaine, la question... c'est une question proposée par Zvefn Poki. Quel est le jeu le plus en avance sur son temps? Vaste question. Évidemment, on sait pas c'est dans son temps, donc c'est pas forcément un jeu d'aujourd'hui, évidemment.
Tu veux dire quel jeu est sorti avant sa date de sortie?
Non. Mais c'est pas possible de pas comprendre à ce point-là.
C'est Mario 64. Enfin, c'est un délire.
Corentin, vas-y. Alors, vas-y, Corentin.
On peut se partager. C'est Mario 64 qui a tout compris à la 3D. Du premier coup, enfin c'est incroyable. Enfin comment tu fais ça en fait? Ça me rend dingue. C'est-à-dire que le jeu encore aujourd'hui, moi j'y rejoue régulièrement. Mario 64, c'est un jeu du cœur absolu. J'y rejoue même dans ses versions décompilées sur PC, dans ses portages PC là en ce moment avec des mods et tout. Enfin c'est un jeu incroyable et c'est un jeu qui a tout compris qui a tout compris. Évidemment, il y a des limites, hein, mais qui a notamment compris comment on gérait une caméra, comment on faisait un level design justement pour pallier ce problème de caméra et de troisième dimension qu'il est difficile d'appréhender avec un écran plat et tout ça. C'est un jeu qui, encore aujourd'hui, me rend fou. Parce qu'il est anachronique en fait. Il n'aurait pas dû sortir à ce moment-là de l'histoire du jeu vidéo. Il est sorti 5 ans trop tôt.
Tu veux dire que c'est un game designer qui venait du futur, qui a voyagé dans le temps et qui est revenu?
Miyamoto Titor qui bien sûr est revenu dans le passé. Non, mais c'est pour moi, Mario 64 a toujours été cette anomalie complète. Ouais. Je sais pas comment ils ont fait. Je sais pas quel est le principe de réflexion. Alors soit c'est une inspiration géniale de Miyamoto à l'époque et de ses équipes, soit vraiment un processus de réflexion qui fait qu'ils avaient vraiment bien testé, bien tout compris et tout ça. Mais encore aujourd'hui, je suis fasciné par Mario 64 et la manière dont il a quand même réussi là où tout le monde a échoué. C'est assez dingue. Et ce qui me rend encore plus fou, c'est qu'il soit sorti sur Nintendo 64, qui a peut-être la pire manette pour de la 3D possible. Je comprends pas comment ils ont pas appliqué le même principe de réflexion sur la manette. Ouais. À titre personnel.
Mais elle est très bien, cette manette.
Et puis c'est en dehors de ce côté intelligent là, t'avais un truc. Enfin, moi, il y a deux jeux qui m'ont fait cet effet-là, où c'est, tu joues, et t'as l'impression de jouer à un truc du futur qui t'ouvre vers d'autres jeux. Où tu te dis, le truc est tellement dingue, que si tu fais ça, mais avec, je sais pas, de la science-fiction ou n'importe quoi, ça change complètement la donne, et t'as, enfin, c'est des jeux où t'as l'impression qu'ils ouvrent un univers de potentialité complètement dingue. Et moi, il y a ça, et l'autre, c'est Wolfenstein, où quand j'ai découvert Wolfenstein, je me suis dit, oh, mais on peut aller dans la profondeur de l'écran, et on peut tourner, et on peut... C'est complètement dingue. Et t'avais l'impression de... Enfin, tu jouais à un jeu qui était formidable, et en plus, t'avais l'impression que demain allait être encore mieux, encore plus dingue, encore plus fou, et que tu pouvais faire ça, appliquer ça à plein de recettes différentes, quoi.
Et j'y repense aussi, mais il y a aussi cet aspect non linéaire de Mario 64 qui était quand même aussi une petite sa petite révolution. Alors, il y a peut-être d'autres jeux qui utilisaient ce système-là, mais le fait d'avoir ce hub central et le fait de pouvoir d'avoir comme ça plusieurs objectifs dans le même niveau qu'on pouvait on n'était pas obligé de suivre d'ailleurs. Enfin, il fallait quand même il fallait faire sa révolution quoi, parce que Mario c'était très linéaire jusqu'à présent, tu démarrais un niveau, il fallait aller du point A au point B.
Le meilleur tutoriel de l'univers, c'est devant le palais, devant le château en fait. Moi j'ai déambulé des heures juste sur l'herbe à courir, à me jeter sur l'herbe, à nager avant même de jouer sur Mario 64, et tu sentais que ça avait été pensé aussi, de pouvoir monter aux arbres sans jouer, juste lancer une partie. Et combien de fois je l'ai fait, juste de lancer une... Il y avait une magie, Mario 64, clairement. Et juste se balader comme ça, et c'était nouveau, enfin, c'était totalement... pour moi, c'était la réalité virtuelle avant l'heure, en fait, ce truc-là. Mais quelque chose d'y être sans y être vraiment.
Tu te jetais dans un tableau, présence, littéralement.
Ouais.
C'était,
En plus, oui, c'était vraiment l'imagerie du jeu, ouais.
Et même le premier monde, le Bob-omb Battlefield, est un...
oui, c'est un tutoriel d'équipe.
Est un tutoriel aussi. Il n'y a pas un seul fossé dans lequel tomber. Ouais. On ne peut pas tomber dans un trou. C'est du génie.
Et les musiques, on peut pas faire une émission sur Mario 64, mais les musiques sont exceptionnelles.
C'est marrant, moi, c'est un jeu que j'ai pas envie de retoucher. Je refuse.
Il vieillit très bien pour moi.
Non, mais c'est même pas ça. C'est juste j'ai envie de garder cette impression de. Enfin, je me revois très très bien devant mon tube cathodique assis en tailleur et machin. Et j'ai pas envie de toucher à ça. J'ai pas envie d'avoir une impression d'aujourd'hui.
Je te compilerai un petit.
Non, mais je l'ai sur Switch.
Non, mais c'est horrible. Pas sur Switch. Ah, il faut compiler.
Je veux garder cet espace-là comme un truc historique, une balise, tu vois.
Bah, je crois qu'on a trouvé le GOAT, mais Patrick, est-ce que tu as une autre réponse ?
Alors moi j'avais pensé Doom, mais surtout Wolfenstein 3D en fait. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, Wolfenstein 3D, il est intéressant parce que à l'époque on comprend pas trop ce qui se passe, et c'est marrant. Alors moi je l'ai découvert un petit peu plus tard, mais parce qu'on n'avait pas les jeux au moment de la sortie. Enfin bref, le monde était différent à l'époque. Alors oui, je vois ce que tu veux dire. Ça ouvrait des perspectives nouvelles, sans jeu de mots. C'était vraiment des perspectives assez incroyables. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, il est une jointure, Wolfenstein 3D. On sait ce qui va provoquer derrière, Doom, et puis l'explosion d'un genre, et même d'une grammaire de mise en scène complètement révolutionnaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que Wolfenstein 3D, c'est un jeu qui se nourrit du passé. Il se nourrit du Castle Wolfenstein de Warner Silas. Je parlais de Berserk il y a quelques temps. Il se nourrit aussi de cette tradition de jeu de survie, action, exploration, avec quelque chose vraiment qui est très très poignant dans l'expérience en fait d'actionneur et de survie, et c'est pour ça qu'il est important Wolfenstein 3D, c'est que pour moi il a la conjonction d'une cassure avec l'émergence de la 3D, qui est une fausse 3D en plus. Wolfenstein 3D c'est du bricolage, c'est des sprites qui sont zoomés, dézoomés, des arêtes qui nous font croire, enfin c'est génial, la mécanique de Wolfenstein 3D, la façon même dont il est fait est complètement incroyable. Mais oui, c'est un jeu charnière qui encore une fois ouvre ouais. un champ des possibles, et d'ailleurs ça explose juste après, mais c'est vraiment Doom qui va ouvrir les portes de l'enfer sans c'est vraiment ça en fait, il décomplexe complètement, tous les autres studios vont se lancer dans le genre. Mais c'est vrai que dès Wolfenstein 3D il y a plein de clones autour, il y a plein de clones qui arrivent qui rebondissent un petit peu sur ce jeu qui reprenait les codes de Ultima Underworld, qui enfin voilà, c'était aussi une vague à ce moment-là de vue subjective, plus rapide, plus sèche. Mais Wolfenstein 3D, quand on le relance, il fonctionne toujours. Le lances dans une version d'aujourd'hui, même s'il est pixelisé, etc. Mais il y a une impulsion qui est là, et le jeu est toujours aussi jouissif à pratiquer. Oui, je suis d'accord. C'est vraiment le titre qui voyait l'avenir. Quand il jouait, tu avais une sensation des 35 ans à venir derrière parce qu'il y avait une grammaire nouvelle, en fait.
Ouais.
Et des sensations complètement inédites.
Moi, pour ma part, vous avez cité évidemment des références et quelles références. Moi, ça va être un jeu un peu plus cassé. Ça va être un jeu un peu plus cassé mais là, pour le coup, j'avais eu aussi cette sensation de voir le futur et qui est pas, objectivement, qui est pas un bon jeu en l'état et tout ça, mais c'est le premier Assassin's Creed. Moi, je sais que quand j'ai joué au premier Assassin's Creed, c'est pour le coup, c'était pas un jeu du moment, en fait. C'était pas un, c'était pas un jeu de 2006. C'était, il y avait un truc, ou 2007, 2007, 2006, ça, 2007,
2007, 2007,
2007, pardon. 2007, ouais. Enfin, il y avait un truc fou, d'animation, d'appréhension de l'espace. On sait que ça a donné beaucoup les open world d'aujourd'hui, quoi. Mais, et je pense que cette impression, ce sentiment que j'ai eu en jouant au premier Assassin's Creed, qui encore une fois était pas, on sait qu'il y avait plein de problèmes qui ont été corrigés dans le 2 d'ailleurs, mais il a ancré en moi un truc qui fait que encore aujourd'hui j'attends tous les Assassin's Creed parce que et j'ai ce sentiment là qui est né à ce moment là et vraiment ouais, ce côté en avance sur son temps, c'est...
On n'a pas cité GTA 3 aussi. GTA 3 qui a été un choc monumental, c'est que personne l'attendait, faut vous rappeler, hein, GTA 1, 2 qui étaient vraiment des jeux de seconde zone en vue aérienne, c'est pas vrai. Très agréable, avec une mauvaise réputation. Et je me rappelle encore des press tours qui ont lieu où on commence à avoir les potes qui reviennent. Ah non, mais c'est une bombe ce truc, c'est pas possible. Et on dit, ah, c'est pas... Et on le prend en main et il y avait un truc. Ça a tout changé.
Ouais.
GTA 3 a tout changé.
Oui. Plus au sein d'une série. D'accord, mais c'est. Mais,
au sein d'une série qui était, voilà, encore une fois, qui n'était pas forcément. Qui n'était pas très fréquentable. Et ce truc-là a tout cassé, tout cassé. Ouais. GTA 3, c'était monumental aussi. Donc 2001, ouais, 2001, parce que oui, c'était en plein 11 septembre, ils sont sortis un petit peu en décalé, et oui, c'était 2001. Et quel baf! Et ça aussi, on voyait l'avenir. GTA 3, l'émission, l'ambiance.
Ouais. Et vous, chères auditrices, chers auditeurs, pour vous, quel est le jeu le plus en avance sur son temps? On a cité des gros, hein, quand même, là, pour le coup. On a bien balisé le terrain, mais il y en a forcément d'autres. Quel est ce jeu, en y jouant, vous avez vu l'avenir? Racontez-nous ça. C'est sur le Discord de Silence on Joue ou sur les réseaux sociaux. Et puis, nous, on se retrouve demain pour l'épisode de la semaine de Silence on Joue. Ciao.
Ciao. Ciao.